Levons-nous pour cela en lisant la parole de Dieu, psaume 105. Ici, il est écrit, du premier verset, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître ses exploits parmi les nations, chantez pour lui, jouez pour lui, parlez de tous ses prodiges, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Vous, enfants d'Abraham, son serviteur, vous, fils de Jacob, ses élus. Lui, l'Éternel, est notre Dieu. Ses jugements s'étendent sur toute la terre. Il se souvient éternellement de son alliance, de la parole qu'il a commandée à 1000 générations, de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et du serment qu'il a juré à Isaac, qu'il a confirmé pour Jacob comme statut et pour Israël comme alliance éternelle. Quand il a dit, « Je te donnerai Cana, le pays que je vous ai attribué en héritage. » À cette époque-là, ils étaient peu nombreux. Ils n'étaient que des hôtes dans le pays. Je crois que dans nos jours, je crois qu'à notre époque aussi, ils sont peu nombreux et peu nombreux dans le pays. Mais ici, il est dit plus loin, verset 13, ils devaient aller d'une nation à l'autre, d'un royaume à une autre nation. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Puis, quand il fit venir la famine dans le pays et qu'il brisa tout appui de pain, alors il avait déjà envoyé un homme devant eux, Joseph, qui avait été vendu comme esclave. On avait serré ses pieds dans le bâton. On l'avait mis dans le fer. Jusqu'au jour où sa prophétie s'accomplit et où la parole de l'Éternel le prouva être un homme vrai. Alors le roi envoya et le fit déchaîner, le chef des peuples, et le libéra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, sur tous ses biens. Qu'il domine à son gré sur ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses officiers supérieurs. Jusque-là, cette précieuse et sainte parole de Dieu, demandons ensemble la bénédiction de Dieu. Seigneur fidèle, nous te remercions du fond de nos cœurs de pouvoir nous réunir à nouveau ici, de près et de loin, de peuples, de langues et de nations. Seigneur, en ton nom merveilleux et glorieux, nous te remercions du fond de notre cœur de pouvoir maintenant lever les yeux vers toi, Seigneur. Seigneur, même si nous sommes opprimés, Seigneur, nous levons les yeux vers toi, Seigneur, et nous savons que tu es avec nous. Seigneur, même si nous ne ressentons pas ta puissance, Seigneur, mais tu nous conduis au but. Seigneur, même à travers la nuit, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, et nous louons ta fidélité et ta grâce. Nous te prions aussi ce soir, Seigneur, continue à nous donner ta parole, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Dis-nous, Seigneur, ce qui doit nous être dit pour ce temps. Ô Seigneur, Seigneur, nous voyons tout ce qui se passe en nos jours, Seigneur. Les événements se précipitent, Seigneur. Mais, Seigneur, nous levons les yeux vers toi, Seigneur, car nous savons que notre rédemption est proche, Seigneur. Alléluia. Sois loué, exalté. Sois-tu, Seigneur, reçois l'adoration. Seigneur, reçois la louange et la gloire. Seigneur, nous te prions aussi, Seigneur. Viens au milieu de nous. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont venus, Seigneur, de près et de loin. Seigneur, à toi seul appartiennent l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Que le Seigneur soit loué et remercié pour sa grâce et sa fidélité. Il a déjà été dit à l'époque, ils viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assieront pour le souper avec Abraham, Isaac et Jacob. Je suis particulièrement reconnaissant pour le repas, donc reconnaissant pour tous ces événements et pour ce que Dieu fait dans nos jours, y compris pour les événements politiques, pour toute l'atmosphère de renouveau, de bouleversement et pour tout ce qui peut se passer. Nous voyons très clairement l'époque dans laquelle nous vivons et sommes arrivés. Dieu fait tout simplement de grandes choses. Là où nous ne pouvons pas y aller, il y a les cassettes vidéo ou les cassettes audio, les lettres circulaires et autres brochures. Dieu cherche, Dieu trouve les gens partout. En revenant aujourd'hui de Genève, j'ai réfléchi à tout ce que Dieu fait de nos jours. Aussi là-bas, j'ai aussi constaté le cœur triste, la manière dont tout se plie et se soumet à Rome, au point d'en être presque effrayé. Mais nous savons que c'est conforme aux Écritures et aucun homme n'y changera rien. Ce qui m'offense dans tout cela, je peux vous le dire, cela m'offense au-delà de toute mesure que toute la population terrestre ait été trompée en croyant que le pape représente Dieu et le royaume de Dieu. Ai-je bien dit cela? Et je veux aussi vous dire pourquoi je l'ai dit. J'ai lu aujourd'hui, comme rarement, au moins 5 ou 6 journaux, et justement, spécialement sur cette visite. Cette visite, notre très honoré M. Gorbatchev, que nous aimons tous cordialement, mais lui aussi doit glisser dans la phase de la fin des temps. Il ne peut pas faire cavalier seul. Il doit s'intégrer dans le tableau d'ensemble. Le Monde, le journal Le Monde, écrit très clairement en guise de titre, « Monsieur Gorbatchev s'est qualifié de manière extraordinaire pour la rencontre avec le pape. » Mais ce n'est pas tout. J'ai lu le Welt, j'ai lu le Frankfurter, j'ai lu de nombreux journaux anglais aussi, mais voici maintenant un titre. Le pape bénit Gorbatchev. Le chef du Kremlin, Gorbatchev, s'est assis les mains jointes devant Jean-Paul II dans la bibliothèque pontificale. Et voilà. Je cite, « Pour la première fois, un pape a reçu hier le secrétaire général soviétique dans la bibliothèque privée. Jean-Paul II s'est entretenu pendant 1h15 avec Michel Gorbatchev en russe, sans interprète. » Très bien, aussi. Le résultat de cette visite historique, le Vatican et l'URSS veulent renouer les relations rompues en 1917. Gorbatchev a invité le pape à Moscou en guise d'adieu. J'enlève le S. Frère fait un jeu de mots. Ça fait en allemand le père pressé. À Benny Gorbatchev et sa femme Raïssa. Celle-ci a dit, eux, leur famille et tout le peuple soviétique ont la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Ils sont donc d'avis que la bénédiction que Dieu a coulé à flot, par la bénédiction du pape. Mon livre, qui est déjà imprimé et sera terminé la semaine prochaine, est chez le relieur et devrait faire l'effet d'une bombe. Nous avons pour mission d'expliquer et de montrer à l'humanité qui est vraiment Jésus-Christ. Et le revers de la médaille, c'est que nous avons pour mission de montrer qui est vraiment l'Antichrist. Cela fait tout simplement partie de l'évolution de notre époque. Je ne sais pas si tout le monde peut le comprendre et l'appréhender, mais lorsqu'il est écrit au verset 8 d'Apocalypse 13, que le monde entier lui rendra hommage, l'adorera. Tout ce dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau immolé depuis la fondation du monde, nous voyons effectivement cela s'accomplir sous nos yeux. Devons-nous nous taire à ce sujet ou bien devrons-nous donner l'avertissement à tous les peuples et à toutes les langues et les juger? Que celui qui veut écouter, entendre. Que celui qui ne veut pas, n'entende pas, mais que l'humanité sache qu'un message prophétique était dans le pays et que Dieu a donné une révélation de sa parole par grâce. Et je suis convaincu qu'il le fera. Si l'on voit maintenant que tout le monde s'incline, spécialement avec vous, frères et sœurs bien-aimés de la République démocratique allemande, nous disons merci à Dieu pour le 9 novembre de cette année. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Qui aurait pu prédire ou oser croire il y a un mois que nos frères et sœurs bien-aimés seraient ici aujourd'hui avec leurs propres véhicules de l'Europe de l'Est? Combien de personnes de la République démocratique allemande sont ici aujourd'hui? Laissez-moi voir vos mains ou levez-vous une seconde. Oui, levez-vous s'il vous plaît. Oui, vous les voyez? Vous les voyez? Amen, amen. Les frères et sœurs applaudissent. Oui, c'est là, c'est ça. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Merci. Nous vous remercions. Je vous remercie. J'ai salué tout à l'heure des frères et sœurs de Russie. Tous, vraiment tous, nous tiennent à cœur. Nous n'avons pas d'esprit national. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous serions heureux s'il plaisait à Dieu d'utiliser ici et l'Europe centrale pour y répandre sa parole, révéler sa vérité réelle. Non pas ce que les hommes présentent comme la vérité, comme étant la vérité, mais la vérité vraiment, la vérité divine. Si cette vérité de la parole pouvait être proclamée, et ce dans le monde entier, et cela se fera en effet selon la volonté de la parole de notre Dieu, selon la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Et j'ai pensé à cela dans le contexte, à la parole tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4. Il y a là au verset 29 quelque chose de tout à fait merveilleux. Versets 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs la puissance de proclamer ta parole en toute hardise avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Lorsqu'ils eurent ainsi prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, annonçant la parole de Dieu avec assurance. Levons-nous et prions aussi comme ils ont prié. Seigneur notre Dieu, nous venons devant ta face comme l'ont fait nos frères et sœurs au commencement. Menacés, persécutés, tu étais avec eux et tu as confirmé ta parole par des signes et des miracles successifs. Seigneur bien-aimé, la fin doit en effet être semblable au commencement. À tout égard, et nous te prions. Donc, vois toutes les menaces, entends toutes les paroles exaltées et commande au puissant comme le Tout-Puissant et sois avec nous comme tu l'étais avec nos pères et fais quelque chose d'extraordinaire. Nous te remercions d'être le vainqueur de Golgotha et de dire le dernier mot et personne d'autre. Nous te prions pour les autorités, aussi pour ceux qui ont dénoncé, aussi pour celui qui l'a fait ensuite. Nous prions pour cela et te remercions de nous avoir également fait subir cette épreuve afin que nous puissions prier de tout notre cœur, presque en riant, pour nos ennemis. Bénis-les, Seigneur, aie pitié d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu fidèle, et bénis-nous ce soir. Et sois avec nous par grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme vous le savez, je n'ai jamais voulu me mêler la politique à la proclamation de la parole parce que cela ne se fait pas. Mais quand il se passe des choses qui ont effectivement un caractère prophétique et qui font partie du développement de la fin des temps, il faut donc simplement les effleurer. Il faut lire les passages bibliques correspondants pour avoir une orientation spirituelle. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une orientation spirituelle pour savoir à quel point le temps est déjà avancé. Et je pense que nous sommes tous d'accord avec cela. Les mots se riment presque. Yalta et Malta. Et Malte. Yalta et Malte. En 1944, les trois grands hommes, Staline, Roosevelt et Churchill, ont divisé le monde entier, l'Est et l'Ouest. En Est et l'Ouest, ont déterminé qui obtient quoi, qui doit disposer de quel domaine. Aujourd'hui, en ce jour, aujourd'hui, les deux superpuissances sont assises à Malte pour décider de ce qui doit se passer. À l'époque, la question était de savoir comment le partager. Aujourd'hui, la question est de savoir comment elle peut être unifiée. Et nous voyons que quelques années se sont écoulées entre Yalta et Malte, mais nous voyons aussi que nous nous trouvons maintenant dans une phase qui n'est plus non plus celle de la guerre froide. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire que les deux blocs de pouvoir ne sont plus du tout des blocs de pouvoir. Car il est écrit qu'ils doivent mettre toute leur puissance à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 17, du verset 17. Les grandes puissances ne sont plus des grandes puissances. Avez-vous compris cela? Celui qui connaît la prophétie biblique, qui a lu le prophète Daniel et qui a regardé dans l'Apocalypse par révélation, aura compris que seuls quatre empires étaient envisagés jusqu'à la fin. Le dernier était l'empire romain. On peut le lire? Je l'ai aussi expliqué dans le livre. Je me sens simplement conduit par la nécessité d'éclairer, de révéler, d'informer et d'apporter la lumière de la parole révélée au peuple qui a été laissé et maintenu dans l'obscurité et de dévoiler, découvrir toutes ces choses. Ce qui m'arrive est laissé à Dieu. Ce qui m'arrivera est laissé à Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que tout ce qui a été écrit a suivi son cours et a circulé et a été lu, puis cru et mis en pratique. Je voudrais lire deux passages du prophète Daniel. L'un est tiré du chapitre 5 de Daniel, où il est écrit ce qui suit à partir du verset 13. Daniel chapitre 5, ici il est écrit à partir du verset 13, peut-être déjà à partir du verset 11. Daniel 5, du verset 11. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'Esprit des dieux saints. S'il vous plaît, c'est une païenne qui a dit cela. Elle ne savait rien. Elle ne savait rien d'un Dieu unique, seulement de plusieurs dieux, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu en qui réside l'Esprit de Dieu. Et c'est qui déjà sous le règne de ton Père. On a trouvé des lumières, des capacités de percevoir ce qui échappe à l'homme et de la sagesse d'une nature proprement divine. Au point que le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a élevé au rang de chef des savants et des évocateurs, des chaldiens et des divins. Ton propre père, ô roi. Parce qu'il y avait justement chez lui un esprit exceptionnel, une intelligence et une capacité à percevoir ce qui échappe aux hommes, dans l'interprétation des songes, dans la résolution des énigmes et dans l'explication des choses mystérieuses, c'est-à-dire chez Daniel, auquel le roi a donné le nom de Belshazzar, qu'on appelle donc Daniel. Il donnera déjà l'explication. Vous connaissez tous le contexte dans son ensemble. Les divins, les affabulateurs, les imposteurs, les interprètes de signes, qui qu'ils soient, ont voulu tourner autour du pot et tricher. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Daniel était un prophète de Dieu. Et la parole de l'Éternel parvient au prophète. La parole leur est révélée. Ce n'est pas leur propre sagesse, mais la révélation divine qui se manifeste là, dans laquelle ce qui est caché est révélé. Ce qui est inexplicable est expliqué. Ce qui ne peut être compris est rendu compréhensible. Nous croyons que nous vivons maintenant dans les derniers jours et que le même esprit qui reposait sur les prophètes et qui les inspirait, repose sur nous et nous inspire, que nous voyons dans le même esprit de Dieu ce qu'ils ont vu, et que nous comprenons comme ils ont compris. Nous l'avons souvent dit, nous avons eu des époques glorieuses, et en particulier depuis les jours de la Réformation, et même avant, lorsque Hus a été brûlé sur le bûcher à Constance, qui avait un lien si étroit avec Wycliffe. Beaucoup ont encore dû donner leur vie pour que la parole du Seigneur puisse être annoncée librement, une fois de plus. Et nous avons en effet eu depuis cette époque de grands hommes, vraiment de grands hommes, avec lesquels nous ne pouvons pas nous mesurer aujourd'hui. Un maudit infiné, qui qu'ils aient été jusque dans notre génération ou notre siècle. Il y a vraiment eu de grands hommes de Dieu, mais la période de l'accomplissement ou la période dans laquelle les choses dont les prophètes parlaient devaient s'accomplir n'était pas encore là. Et c'est pourquoi ils n'ont pas eu la révélation sur ces choses qui n'étaient pas encore arrivées. Ils n'ont pas eu la révélation sur les choses qui n'étaient pas encore arrivées. S'ils vivaient aujourd'hui, ils seraient parmi nous. Je prétends que si Martin Luther vivait aujourd'hui, il serait ici. Si tous étaient des hommes de Dieu, s'ils étaient des hommes de Dieu, ils auraient toujours été là et seraient encore là aujourd'hui, où la vraie parole de Dieu est proclamée conformément à l'heure du conseil du salut de Dieu. C'est certain. Où trouveriez-vous les prophètes aujourd'hui? Où? Là où il n'y a aucune compréhension de ce qu'ils ont dit? Mais pas du tout. Où trouveriez-vous aujourd'hui les apôtres? Aujourd'hui, là où on ne croit pas ce qu'ils croyaient et là où on n'enseigne pas ce qu'ils ont enseigné, où trouverions-nous aujourd'hui les hommes de Dieu? Nous les trouverions là où l'on prêche, enseigne et croit ce qu'ils ont prêché, cru et enseigné. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu a appelé une foule de vainqueurs de chaque âge, un nombre qui s'est laissé appeler. Non pas que Dieu ait dit « Je te prends toi et je te laisse toi », non. Cela ne plairait pas à Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, secourus, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que tous soient sauvés. Mais tous ne se laissent pas sauver et tous ne veulent pas se plier ou se rendre à la vérité. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de pouvoir vivre en tant qu'êtres humains les plus simples, à l'époque vraiment la plus grande de l'histoire de l'humanité et aussi de l'histoire divine du salut. À une époque où l'on ne se pose plus de questions, où l'on n'interprète plus, mais où Dieu a révélé les choses. Le Seigneur a toujours eu dans son royaume, à des moments précis, lorsque quelque chose d'extraordinaire devait se produire, il a toujours eu des hommes comme Daniel, sur lesquels reposait l'Esprit de Dieu. Le discernement divin, la sagesse divine, la vue d'ensemble, la connaissance, ils n'ont pas pris tout cela comme ça d'eux-mêmes. Cela leur a été donné. Et la sagesse des hommes de Dieu dépassait tout le savoir des devins, des interprètes, de signes, comme de ceux qui ont égaré le peuple pendant assez longtemps par de nombreuses ruses. Et en effet, c'est ainsi le souhait de mon cœur. Et je crois que Dieu le fera, que nous ne venions pas seulement avec des paroles de révélation et avec la vérité, mais que Dieu confirme sa parole de manière puissante, car il le peut et il le veut. Il le veut et il le peut. Nous en avons parlé il y a peu de temps. Ici, la question n'est pas de savoir si Dieu peut ou veut. Dieu peut et Dieu veut. La question est toujours de savoir si nous pouvons croire. Et ce n'est que lorsque nous pouvons croire qu'il peut faire ce qu'il veut faire. Il veut, mais tu dois aussi vouloir. Je dois aussi vouloir. Nous devons mettre notre volonté dans la volonté de Dieu. Daniel, un homme simple, mais rempli de l'Esprit de Dieu, un prophète, un homme de Dieu, à qui le Seigneur a pu révéler ce qui était resté caché aux autres. Dans Daniel 12, au verset 4, nous lisons « Et toi, Daniel, garde sous clé ce qui a été dit. » Et scelle le livre jusqu'à la fin des temps, alors beaucoup le scrupteront, et ainsi la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous pouvons sonder les Écritures, et la connaissance augmente. Parce que le temps est venu où toutes ces choses s'accomplissent. Et vous savez aussi, il y a une parole dans le chapitre 9, aussi là, dans Daniel chapitre 9, que Dieu va même confirmer le prophète, donc la vision et le prophète. Daniel 9, verset 24. 70 semaines, donc ici c'est 70 semaines d'années, ont été fixées sur ton peuple, donc 70 semaines d'années ont été fixées sur ton peuple, et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour confirmer la vision et le prophète, et pour oindre ce peuple très saint. Cela implique qu'il confirme ce que les prophètes avaient vu en vision. Car les prophètes étaient des voyants. Ils ont d'abord vu et ensuite ils ont parlé. Aujourd'hui, beaucoup ne voient pas, mais ils parlent. Et ils parlent d'eux-mêmes en passant à côté de Dieu. Les vrais prophètes sont des voyants. Ils voient en vision ce que Dieu veut leur montrer et ensuite l'inspiration vient sur la vision. Vient sur ce qu'ils ont vu et les Donc ensuite, l'inspiration vient d'écrire ce qu'ils ont vu et l'éclairer divinement. Dieu confirmera les deux, le prophète et ce que les prophètes ont vu. Nous le croyons jusqu'à cette époque. Il y a une parole qui devrait se trouver dans Luc chapitre 3. C'est là qu'elle est formulée de la plus belle manière en ce qui concerne l'ensemble de la chose en tant que vue d'ensemble. Luc chapitre 3, il est dit de Jean-Baptiste au verset 2, dans Luc 3 du verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean ne s'est pas contenté de se présenter. Il a attendu le moment où la parole, jusqu'à ce que la parole du Seigneur lui soit adressée. Et au moment où la parole de Dieu lui est parvenue, c'est à ce moment-là qu'il est parti. Le verset 3 dit ici, « Il parcourut donc toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. » Quelle formulation merveilleuse. Un homme envoyé par Dieu, avec le message de Dieu pour cette époque, pour faire le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il est dit ici, je le relis au verset 2. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il parcourut donc toute la région du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, une voix crie à haute voix dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez-lui ses sentiers. Non pas tes sentiers et les miens, mais ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin de l'Éternel, des hommes à l'Éternel, des hommes envoyés par Dieu avec la parole de l'heure se sont placés sur la parole prophétique parce qu'elle s'est accomplie en leur temps et qu'ils sont devenus eux-mêmes une partie de ce que Dieu avait prédit. Et ce n'est pas seulement ce soir, mais à chaque fois que nous mettrons à jour les développements qui se produisent actuellement sur la base des Écritures. Nous allons le faire sur la base de ces Écritures, à chaque fois. Tout est en effet l'accomplissement de la parole de Dieu, afin que l'on puisse bientôt s'exclamer, maintenant c'est la paix et la sécurité, et il n'y a plus de danger. Jusqu'à ce qu'il puisse le dire, il faut simplement que cela arrive. Mais ce qui me tient directement à cœur, ce n'est pas seulement le bouleversement qui se produit ou l'ambiance de départ, l'ouverture des frontières, car il y aura un cours, une évolution qui se produira, mais nous ne devons pas attendre que cette évolution soit terminée. En effet, c'est au moment où cette évolution se produit, où l'on se rapproche les uns des autres, où l'on s'unit, où ils se rapprochent les uns des autres, où ils s'unissent, et nous n'ajoutons rien de nouveau en disant qu'aujourd'hui, l'union est religieuse. De toutes les manières, que ce soit l'Église d'Angleterre, peu importe, ils retrouvent tous le chemin de Rome, l'union des hommes politiques, des systèmes politiques de différentes sortes, l'union des églises de différentes sortes, mais l'union à tout prix. L'union à tout prix. Et vous avez certainement remarqué, à moins que vous ne soyez passé à côté d'une manière ou d'une autre, si nous considérons l'évolution dans les années un peu plus lointaines, que ce soit en République démocratique allemande, quand il y avait l'insurrection que ce soit à Prague ou que ce soit à l'époque, l'Église n'était pas derrière. Et donc, cela ne pouvait pas fonctionner. L'Église n'était pas derrière tout cela. C'est pour cette raison que ça ne pouvait pas fonctionner. Mais vous pouvez dire, oui, frère Frank, de quel droit tu dis cela? Si Dubček avait eu toute l'Église derrière lui, cela serait venu d'en bas et du peuple, comme pour Mr. Valença, sur le chantier naval de Lénine à Gansteck, que l'on ait vu représenté à genoux, que l'on a vu représenté à genoux, n'est-ce pas, et le prêtre qui l'a confessé, tout à fait en plein air, le monde entier regardait. Pensez-vous que tout cela serait devenu possible dans tous les pays si l'Église de la puissance mondiale n'avait pas été derrière tout cela? Ne vous trompez pas, depuis le début, lorsque l'Église romaine est née, elle était l'Église impériale romaine et la cause commune était l'État et l'Église. Pensez-vous, frères et sœurs bien-aimés de la République démocratique allemande, qu'il en aurait été ainsi si les gens ne s'étaient pas réunis auparavant pour le service religieux? Ne vous trompez pas. Le service divin, vous le savez, c'est le service divin en parenthèse. Nous voyons l'évolution, nous la voyons avec des yeux très clairs et un regard lucide, le temps est là. Et un monsieur Gorbatchev, qui n'est certainement pas athée dans son cœur, parce qu'il a des parents croyants, est déjà au courant de la Bible. Il sait ce qui est écrit dans la Bible, il doit aussi y participer, qu'il le veuille ou pas, qu'il le veuille ou non. Mais partout, vous l'avez vu aussi, en un clin d'œil, les églises ont été ouvertes, restaurées, et les monastères, avez-vous lu tout cela? Et si je vous disais aujourd'hui le montant que le pays, notre Saar, notre Saarland, le Länder ici en Allemagne, combien le département de la Saarland en Allemagne ici a payé, a donné à la Russie pour remettre en état les monastères et tout, vous ne sortiriez plus de cette salle en ligne droite, tout en pouvant marcher droit. Tout est déjà en route, cause commune. Ils font cause commune. Les gens peuvent appartenir au parti politique qu'ils veulent. Qui donc écrit les discours qu'ils prononcent? Qui est derrière tout cela? Je ne veux pas me lancer dans la politique parce que ce n'est pas mon truc. Je n'en ai pas vraiment envie, mais le temps est venu où, comme au début, lors de la naissance de l'Église romaine, les deux ont fait cause commune, l'État et l'Église. C'était deux choses, mais c'était une seule chose. L'Empire terrestre aidait l'Église. L'Église aidait l'Empire et c'est ce qui va se passer maintenant. Une association, une union sans arrière-plan religieux ne serait pas du tout digne de confiance. Il faut trouver une personne en qui tout le monde place sa confiance. Et comme je l'ai dit, lorsque j'ai lu ici que la femme de M. Gorbatchev a ensuite déclaré que Dieu l'avait maintenant béni, elle, sa maison et tout son pays, j'ai compris qu'elle n'avait pas une vision claire. Un homme ne peut pas bénir. Seul Dieu peut bénir. Mais le peuple a été égaré et cela doit changer, croyez-moi. Pouvez-vous imaginer que Dieu va envoyer un grand fracas dans le monde religieux? Que quelque chose qui n'est pas encore pensable va éclater et que les gens seront forcés de réfléchir et peut-être de comprendre qu'ils ont été trompés à l'époque quand toutes les révoltes étaient partout et qu'on voulait faire tomber le joug de l'oppression. On était trop faible parce que ce pouvoir manquait. Mais aujourd'hui, tout est devenu très différent et nous voyons que la fin est vraiment proche. Et il est clairement écrit dans Apocalypse 17 que la prostituée chevauche la bête. Et si il est écrit ainsi que la prostituée chevauche la bête, c'est vrai. Et ça veut dire que cela est vrai, c'est écrit comme ça. Et ça aussi, je l'ai mentionné ici récemment. Il y a vraiment des experts qui veulent reconstruire l'ancien empire romain comme ça, avec 10 cornes et 7 têtes. J'aimerais qu'ils utilisent mieux leur propre tête et ouvrir leur cœur à la révélation. Il ne s'agit même pas de savoir combien de pays sont à l'est et combien sont à l'ouest. Il s'agit seulement de savoir que ce domaine qui était autrefois sous la domination de Rome est à nouveau sous la domination de Rome. Vous savez très bien que lorsque la Bible dit que le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges, il n'y a pas, ça veut pas dire qu'il n'y a que 10 vierges, il y en a beaucoup. C'est une parabole pour pouvoir dire la moitié s'en sortira et atteindra le but, l'autre moitié restera. Mais j'ai écrit à ce sujet, et c'est la même chose concernant aussi les 10 cornes et les 7 têtes. Mais il y a une chose qui est sûre. Non, pas besoin de nous attarder là-dessus. La bête doit former une cause commune, à savoir l'Est et l'Ouest, un tout. Quelle que soit sa forme, il doit s'agir d'un tout. Les 7 têtes ne peuvent pas être là quelque part et les 10 cornes là-bas. Cela doit être une unité, sinon cela ne fonctionne pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à Yalta, on a divisé. Ils ont divisé. Je l'ai lu. Roosevelt a demandé à Churchill combien d'Allemands étaient déjà morts. Il a dit 5 millions. Puis Churchill, un peu en réfléchissant, a dit « Oui, 1 million de plus ne ferait pas de mal. » Ne ferait pas de mal, 1 million de plus. À l'époque, ils ont divisé. Aujourd'hui, ils réunissent, ils unissent, soi-disant. Et les politiciens peuvent dire ce qu'ils veulent. Celui qui parle sans tenir compte de la parole de Dieu devra se faire rappeler à l'ordre. Mais bien sûr, c'est inconvenable pour tout le monde. Soyez honnêtes, nous avons nous-mêmes du mal à suivre le développement tel qu'il se déroule actuellement. Et en peu de temps, ce que Dieu a promis et annoncé dans sa parole sera là. Et comme je l'ai déjà mentionné, laissez-moi vous lire Apocalypse 17 afin que vous sachiez qu'il est écrit que même les 10 cornes qui haïront alors la prostituée, la mettront à nu et la brûleront, c'est-à-dire rendront la pareille au Vatican, que ces 10 cornes-là, temporairement, doivent aussi mettre leur pouvoir à la disposition de cette bête. Apocalypse 17, du verset 16. Et les 10 cornes que tu as vues et la bête, elles haïront la prostituée. Imaginez, elles haïront. Mais que pour que les paroles de Dieu s'accomplissent, elles doivent quand même mettre leur pouvoir à la disposition de la bête. Bien qu'elles la haïront. Je le lis encore une fois. Elles haïront la prostituée, la rendront salutaire et nue. Il relit le verset 16. Consommeront sa chair et la brûleront elles-mêmes par le feu. Oui, mais cela ne vient qu'après. Qu'est-ce qui vient avant? Avant, il y a l'union. Je poursuis ma lecture, verset 17. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, d'agir dans un seul sens et de mettre leur royauté à la disposition de la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Gloire au Dieu vivant, si clair, si limpide. On peut le voir. Louons le nom du Seigneur. Dans leur cœur, ils savent que la chose n'est pas honnête. Mais ils doivent, afin que la parole de Dieu soit accomplie, ils doivent mettre leur pouvoir. Les puissants doivent mettre leur pouvoir à disposition, afin que cette grande puissance, qu'est Rome, puisse à nouveau être mise en valeur. Et que cette prostituée puisse chevaucher cette bête. Et je le dis dès maintenant, aussi parce que la parole de Dieu le dit, au moment où cela sera en action, où vraiment ils agiront dans un seul sens, au moment où cela vraiment sera accompli et où l'on ne parlera plus de l'Est et de l'Ouest, où l'on ne parlera plus des blocs militaires et ainsi de suite. En bref, très bientôt, ils diront aux Américains, retournez donc en Amérique et aux Soviétiques, retournez donc en Russie et retournez en Union Soviétique et tous les autres peuvent aussi aller où ils veulent. Ce n'est qu'une question de temps et cela aussi arrivera plus vite que nous ne le pensons. Donc, comme la parole de Dieu le dit ici, il arrivera que cette bête, cette puissance qui était là et qui n'est plus là, mais qui ressurgit, et elle ressurgit, sans aucun doute, elle ressurgit. Vous avez certainement retenu les mots-clés, maison européenne, accessible à tous, toutes les portes et fenêtres ouvertes, et ainsi de suite. Un toit, une maison pour tous. Bien-aimés, j'ai mal au cœur en pensant que nous c'est ainsi que nous pourrions presque le dire. Nous pouvons interpréter les signes des temps et que nous les comprenons correctement. Et pourtant, en tant qu'Église du Seigneur, nous ne sommes pas encore là où nous devons être. Peut-être que la seule consolation que j'ai est celle-ci. Frère Branham l'a vu et il a dit, quand la pression de l'Église par le Conseil mondial des Églises sera exercée sur les vrais croyants, alors les grandes choses que nous attendons se produiront. Dieu a aussi son temps pour cela. Comme il a maintenant le temps de préparer tout cela en toute hâte, et nous remarquons ce qui se passe maintenant se passe en toute hâte et non plus aussi lentement qu'auparavant. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, Dieu équipera, revêtera son peuple de la puissance d'en haut et confirmera sa parole comme étant la vérité. À la fin, nous ne serons pas des insensés. Aujourd'hui, nous le sommes, n'est-ce pas? Vu par les autres, les gens nous considèrent ainsi. Ils se moquent et rien de nous. Et rient de nous. Mais alors, nous serons ceux qui exulteront de joie. Et la bouche sera pleine de rire le jour où le Seigneur l'accomplira. Ne vous inquiétez pas. Toutes les choses suivent leur cours maintenant et vont vers leur fin. Staline, se serait-il assis là, les mains jointes, pour se faire bénir ou d'autres personnes, par cet homme ou monsieur Nikita Khrushchev qui a retiré sa chaussure et tapé sur la table à tel point qu'on l'entendait presque ici en Europe? Il ne l'aurait pas fait. Il ne se serait pas laissé bénir par cet homme. Que s'est-il passé? Le temps est venu. Je le répète, les grandes puissances sont devenues petites. Ce qui devient maintenant grand et important, c'est l'Europe unie, l'ancien empire romain. Et l'Église romaine se servira de cette puissance pour atteindre ses objectifs. Mais Dieu a aussi envoyé de nos jours, et je n'en ai pas honte, un prophète pour nous révéler la parole prophétique. Il ne l'a pas connue lui-même. Elle lui a été donnée par Dieu, offerte par Dieu. Tout comme aussi au prophète Daniel et autres. Nous ne mettons pas en avant un homme, mais nous sommes très, très reconnaissants à Dieu de ne plus avoir à le demander. Oui, que penses-tu de cela? Cher frère, comment est-ce que tu vois ces choses? Comment est-ce que tu comprends cela? Non, nous ne pensons plus, nous ne posons plus de questions parce que Dieu nous l'a révélé et nous a donné la réponse à ce sujet. Je me souviens très bien de l'époque et j'en viens à ma conclusion où les frères expérimentés de la parole se réunissaient dans notre maison que j'avais 14, 15 ou bien 16 ans à l'époque, ou bien même plus, peu importe, je les ai tous entendus, toujours volontiers entendus. Et l'un demandait à l'autre, « Oui, qu'est-ce que tu en penses? Et quelle compréhension Dieu t'a-t-il donné à ce sujet ?» Les formulations étaient différentes et les réponses l'étaient tout autant. Mais aujourd'hui, nous ne formulons plus. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Dieu avait dans son royaume un homme, même aussi de nos jours, qu'il pouvait remplir du Saint-Esprit, à qui la révélation divine a été donnée, qui avait le « ainsi parle le Seigneur » et qui a fait en sorte que la révélation redevienne une révélation par le Saint-Esprit qui a parlé à travers lui. Nous ne saurions pas toutes ces choses, n'est-ce pas, frères et sœurs, bien-aimés, si Dieu ne nous les avait pas ainsi révélées. à lui, le seul Dieu vrai, unique, soit la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration pour nous avoir sauvés, pardonnés, donc payer nos dettes, pardonner nos péchés, donner la vie éternelle, mais aussi pour le fait que nous puissions vivre maintenant en ce temps et que nous puissions maintenant voir le message divin et de manière générale cette partie de l'histoire du salut à la lumière de la révélation divine. Nous ne nous demandons pas que dit tel évangéliste et que dit tel autre. Un grand radio-évangéliste a dit que parce que Gorbatchev avait sans doute eu un petit bobo à la naissance sur le front, c'était la marque de la bête. Un grand radio-évangéliste. On ne peut même pas imaginer, et nous ne jugeons pas ici, mais sans Dieu et sans révélation divine, les gens les plus intelligents sont des imbéciles. Je m'excuse. On peut oublier leur sagesse. Dieu seul révèle et donne la grâce de comprendre correctement ce qui est révélé. Qu'une action de grâce s'élève en nous, qu'une véritable louange s'élève de notre cœur vers le trône de Dieu. C'est l'époque la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Et maintenant, d'entendre avec des yeux qui voient, avec un cœur qui croit et avec des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises et de voir ce que beaucoup de prophètes et de justes auraient aimé voir. Loué soit le Seigneur, notre Dieu, qui nous a si gracieusement visités en nos jours, maintenant et dans l'éternité. Amen. Levons-nous et prions. Frère Rousse, viendras-tu prier, s'il te plaît? Dieu fidèle, nous te remercions ensemble, ô Seigneur, pour ta précieuse et sainte parole. Nous ne la voyons pas de nous-mêmes, mais par ta grâce, tu nous as donné des yeux éclairés et des cœurs illuminés. De nous, nous sommes tous égarés. Nous nous égarions encore aujourd'hui. Ô Seigneur, mais tu as pris soin des tiens du début à la fin, ô Seigneur. Et tu continueras à prendre soin, ô Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas à nous inquiéter. Tu prends soin des tiens, Seigneur. Tu as envoyé ton serviteur et prophète. Tu as donné tout ce qui était nécessaire, Seigneur. Tu as tout fait connaître. Il y a des années, Seigneur, alors qu'on ne voyait encore rien. Seigneur, tu nous les as déjà montrés, alors que rien n'était visible, ô Seigneur. Les tiens, ô Seigneur, tu leur as révélé ces choses, ô Seigneur. Comment ne pas exalter ton nom? Comment ne te louerions-nous pas, ô Dieu des cieux, toi qui as pris soin de nous, Seigneur? Et maintenant, Seigneur, tu fais connaître ta gloire et tout cela à ton peuple, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, que nous puissions l'entendre aujourd'hui, que nous puissions le voir, que tout s'accomplit. Ô Seigneur, ce que dit ta parole, Seigneur, garde toujours raison, la raison. Seigneur, ta parole ne ment pas. Seigneur, ta parole est la vérité, Seigneur. Ce que les prophètes ont dit, Seigneur, tu le confirmes en ces jours, Seigneur. Oh, merci pour cela. Louange, honneur et gloire à ton nom merveilleux et glorieux. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration au nom de Jésus. Amen.